l'évangile de Marc au chapitre 6. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les. Qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain ?» Allez voir. Ayant vérifié, ils disent 5 et 2 poissons. Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains. Et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers et aussi ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Frères et sœurs, je vous invite à prier Dieu pour que les Écritures s'ouvrent. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Ta parole vient de retentir. Par ton esprit, fais que cette parole maintenant agisse, creuse en nous quelque chose, nous mette en marche. Parle-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous t'en prions en Christ, notre Seigneur. Amen. On peut dire que tout l'Évangile est dit dans cette parole, « Donnez-leur vous-même à manger. » La scène pastorale, bucolique à souhait nous transporte sur les prés d'herbe verte du psaume 23, moi j'y pense spontanément. Elle évoque aussi le temps de la famine et souvenez-vous le miracle de la multiplication des pains par le prophète Élisée dans le livre des rois. En tout cas, la scène sent bon la Bible. Le miracle d'abondance tel que Marc nous le décrit là, spontanément oriente nos regards vers le jour où la faim dans le monde ne sera plus. Faim de pain, bien sûr. Faim de Dieu. Chacun sera rassasié, au-delà de toutes ses attentes. On peut lire ce récit comme ça, sans le lier ni à ce qui précède, ni à ce qui vient. Et lui faire dire de très belles choses, des choses dont nous avons besoin certainement, des choses qu'il ne dit pas, mais qui nous font du bien. On peut aussi faire le choix d'une lecture un peu plus, j'allais dire conséquente, oui, un peu plus risqué. Et il apparaîtra rapidement que se donner leur vous-même à manger n'est pas une gentille invitation du Seigneur Jésus à de gentils disciples. Elle dit autre chose. Cette parole, je le crois, est à la fois révélatrice d'un profond malentendu sur le sens du service chrétien et en même temps un appel vibrant à ce qu'on pourrait appeler la responsabilité chrétienne. Il faut donc, si vous me le permettez, commencer par accrocher les wagons. Cet ordre de Jésus, donnez-leur vous-même à manger, au cours d'une histoire qui a commencé un peu plus haut dans le texte, dans le récit, elle a commencé précisément au moment où Jésus envoie les 12 en mission. Au début de notre passage, là où nous avons commencé, nous voyons les 12 revenir, tout excités. Vous l'aviez noté de mission. Mais je vous rappelle la feuille de route que Jésus leur avait demandé de suivre. Partir les mains vides. Dépendre de l'hospitalité. Ce qui n'est pas la chose la plus difficile d'ailleurs en Orient. Nous vivons ça souvent. Et de chasser les esprits mauvais. Voilà ce qu'avait demandé Jésus. Et notre passage raconte le retour de mission. Les disciples sont vraiment enthousiastes. Ils s'empressent de raconter à Jésus tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Alors que Jésus insistait sur le rien, sur le peu, eux insistent sur le tout, sur le beaucoup. Et nous notons au passage un petit clin d'œil de l'évangéliste Marc qui raconte ce récit. Leur statut a changé au fil du récit. Ils sont partis disciples et ils reviennent apôtres. Ils sont partis élèves et ils reviennent en maîtres triomphants. Ils sont riches d'une expérience, forts d'un savoir-faire et peut-être aussi d'un pouvoir. Quelque chose cloche dans ce rythme. Quelque chose ne va pas dans cette mise en scène. Moi, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur ce tout, cet enseignement dont ils parlent, sur tous ces exploits qu'ils ont réalisés, ces exploits apostoliques. Ce tout ne me dit rien qui vaille du tout. Parce qu'entre tout et rien, il n'y a souvent pas grande différence. C'est flou, c'est vague. Et ce qui me paraît encore plus significatif, c'est cette retenue du Christ, cette distance, ce silence même, qui contraste avec cette volubilité, cette loquacité des 12. Au lieu de partager leur enthousiasme avec une formule bien évangélique, du genre « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître » ou quelque chose d'autre. Jésus les invite au déplacement. Il les invite au silence, au désert, au repos. Il les invite à se taire un peu, à se distancier de tout ce qui leur est arrivé. Quelque chose ne va pas dans ce texte. Peut-être les disciples entendent-ils cette invitation de Jésus à aller au désert un peu comme un repos dû aux vaillants missionnaires, guerriers, qu'ils pensent être devenus. Et ils vont pas être déçus du voyage. Parce que sur le lieu présumé du repos, Jésus et les disciples découvrent une foule immense. Une foule aux mains vides, une foule au cœur gros, une foule qui ne peut pas se passer de Jésus. Dans les évangiles, Michel nous l'a montré tout à l'heure, Jésus ne s'est jamais ému devant un joli paysage, ni devant un bon vin, ni devant une belle idée. Jésus ne s'émeut que devant des gens, devant un ami mort et ses sœurs qui pleurent. Devant des gens en souffrance, devant la faim et la soif de ceux qui cherchent, devant des foules perdues, voilà ce qui émeut le Christ. Et c'est un drôle de repos auquel sont invités maintenant les disciples. Les pasteurs, même les pasteurs en vacances, s'imaginent les pieds en éventail sur le bord de mer. Mais on les invite à prêcher encore. Oui, le président. Voilà un peu le repos que le Seigneur prévoit. Au lieu du silence, la foi. Au lieu de l'intimité avec le Maître, il faut être maintenant au four et au moulin. Au lieu du désert, l'herbe verte. Je ne sais pas comment expliquer ce contraste que vient faire cette herbe verte dans le secteur régional où on se trouve là. Mais si vous avez une idée, je suis preneur. Au lieu d'un repas entre intimes, 12 et le Seigneur. Un repas frugal, mais partagé. 5 pains, 2 poissons. Une foule à nourrir, une foule entière. Voilà. Avec Dieu, rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Parce que les enjeux véritables de l'existence se situent rarement là où nous les situons nous. Et le choc est rude pour ces 12. Avez-vous remarqué au passage qu'ils ne sont plus appelés apôtres, mais ils sont redescendus d'un cran, ils sont à nouveau appelés disciples, les pauvres. Alors que Jésus s'émeut aux larmes devant la foule, eux s'inquiètent. Alors que le Maître s'ouvre maintenant au possible de la grâce, en rendant grâce pour le peu, eux s'enferrent dans des problèmes de gestion et des calculs étriqués. Quant à ces malheureux pains, et ces 2 poissons, leur présence dit beaucoup de choses, peut-être beaucoup trop de choses. Ils symbolisent à eux seuls, ces 5 pains, l'échec cuisant de la première mission apostolique. C'est le pain de la trahison. N'étaient-ils pas les 12 censés voyager les mains vides ? Je relis ce passage que nous n'avons pas lu. Ni pain, ni sac, ni argent avait recommandé explicitement le Seigneur. D'où sort-il maintenant cette pitoyable ration? Elle révèle la logique sécuritaire et protectionniste dans laquelle ils n'ont jamais cessé d'exister, même en tant que disciples de Jésus, et de penser leur mission. Les disciples se croyaient des apôtres prestigieux. Mais voilà, la mission évangélique se trouve ailleurs. Elle se trouve dans cette foule et dans cette impossible parole. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger, c'est une parole qui fixe un double rendez-vous. Non seulement un rendez-vous avec ceux qui sont là, qui ont faim, pas qui avaient faim, mais qui ont toujours faim. Donnez-leur à eux, premier rendez-vous. Mais aussi un rendez-vous avec soi-même, donnez-leur vous-même. Et cette dernière confrontation avec soi-même, que ce soit un soi-même personnel ou communautaire, n'est certainement pas le moins redoutable des rendez-vous. Cette parole nous amène à considérer l'Église non plus comme un lieu d'occupation, de reconnaissance personnelle, d'exercice du pouvoir, par exemple, aussi, mais comme un lieu de renoncement à soi, comme un lieu où l'on expérimente le manque, non pas le tout et le beaucoup. Un lieu de rencontre avec Dieu et un lieu de rencontre avec ceux qui sont là, les mains vides et le cœur plein de l'attente de Dieu. Vous êtes peut-être un peu surpris par cette lecture, mais en même temps, revenons sur l'ensemble du chapitre 6. Marc nous avait prévenu. Nous n'avons aucune excuse, en fait. Il avait inséré au milieu de ce chapitre 6, un peu comme un cheveu sur la soupe à la première lecture, le récit de la mort de Jean-Baptiste. Vous savez, celui qui s'est fait couper la tête parce qu'il aimait plus la vérité que sa propre vie. Eh bien, Marc, le témoignage de Jean-Baptiste, nous avait un peu préparé à entrer sur un chemin de mission que finalement, peu vont accepter de suivre et que les 12 n'ont pas suivi jusque-là. Jean-Baptiste et Jésus sont les modèles de cette mission. Et tous ceux qui, dans l'histoire, sans toujours finir sur une croix ou la tête coupée, quoique ce soit très à la mode du côté du Proche-Orient, tous ceux qui, dans l'histoire, sont allés sur ce chemin de renoncement à soi et de service des autres, eh bien, ceux-là sont devenus les disciples du Seigneur. En partant au Liban avec Christine et Sophie, nous ne pensions pas rencontrer cette foule immense. 1 200 000 réfugiés syriens sont là, dans notre pays, chrétiens et musulmans, déplacés, ayant tout perdu. Nous avons d'abord été tentés de prier un peu comme les disciples l'ont fait, et comme certaines voix ne se privent pas de le faire en France aujourd'hui. Renvoie-les, Seigneur. Nous aurions sans doute préféré vivre au Liban suisse oriental. Vous avez entendu parler de cette réalité sur les cartes postales. Nous aurions aimé nous réfugier, nous aussi, dans l'intimité d'un Jésus bien à nous, et partager avec lui 5 mezzés et 2 verres de bon vin de la Becca. Il en a bu, j'en suis sûr, parce qu'il est venu au Liban. Donc. Mais la parole de Jésus a résonné dans nos vies, comme elle résonne ce matin, je l'espère, dans ce temple. Donnez-leur vous-même à manger. Quittez vos fausses sécurités. Laissez-vous émouvoir par l'humanité en souffrance. Laissez-vous entraîner par cette parole que je prononce et par cette foule qui est là et qui tend les mains. Elle ouvre un chemin de vie, un chemin de croix peut-être, mais au long duquel la présence et la grâce du Seigneur ne font jamais défaut à quiconque. Un chemin sur lequel nous découvrirons nous-mêmes et ensemble, disciples, apôtres, chrétien tout simplement. Et je voudrais pour finir évoquer le souvenir du père jésuite Franz van der Lucht, l'un de ses apôtres du Seigneur dont nous parlons maintenant, assassiné à Homs en Syrie par les djihadistes de Daesh. Devant son couvent, le 7 avril 2014, parce qu'il avait choisi de rester jusqu'au bout, auprès de ceux qui lui étaient confiés, une foule parmi d'autres. Et je vous laisse avec ce témoignage du père Franz, recueilli 2 jours avant son assassinat. Il écrit ceci. Les chrétiens dans le vieux Homs ne cessent de répéter « Nous ne pouvons rien faire. Nous nous sentons totalement impuissants. » Mais nous croyons que Dieu ne délaisse pas le croyant. Oui, écrit le père Franz, Dieu est là, au cœur de la souffrance. La foi nourrie d'espoir et de patience. Dans cette épreuve, écrit le père Franz, nous admirons la bonté des gens autour de nous. Ceux qui sont totalement privés de nourriture trouvent à leur porte du blé concassé et des lentilles. Nous voyons le mal frayer son chemin, mais cela ne nous rend pas aveugles devant le bien qui fraye le sien aussi. Nous ne devons pas permettre au bien de quitter nos cœurs. Nous qui vivons dans l'obscurité, nous apercevons déjà une grande lumière. Amen.